bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Lila qui est au bout des lignes, Agnès Surstel, Daniel Morin.
Bonjour Agnès.
Albert. Bonjour. Vous, tout à l'heure il y aura Tanguy Pastureau et notre invité est Amanda Sterz. Bonjour Amanda, bienvenue.
Bonjour.
Tous nos voeux, nous allons parler de Holy Lands, ce film qui sortira demain, 16 janvier, avec un casting impressionnant. Rosanna Arquette, James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyer, Ephrat Dor, Patrick Bruel est présent également. Mais pardon, c'est moins une surprise d'avoir réussi à convaincre Patrick Bruel que Rosanna Arquette ou que James Caan. Évidemment,
quand j'avais son portable, ouais.
Considérant les liens que vous avez, mais un casting incroyable pour un film américain. Il fallait que ce film soit américain ? L'adaptation de votre propre roman ?
Non, au départ, ça devait être un film français. On a eu beaucoup de mal à le monter financièrement en France. Et je l'ai traduit en anglais parce que je venais de faire un autre film américain et je l'ai financé très très vite. Voilà.
Donc, et de convaincre, des comédiens qui ne savent pas forcément quelle romancière vous êtes, quelle réalisatrice vous êtes, ça a été simple ou il fallait reprendre tout à la base, leur envoyer des DVD de ce que vous aviez fait,
Ils ont voulu regarder ce que j'avais fait, mais ils ont été convaincus par le scénario. Du coup, c'était assez touchant pour moi, parce qu'il n'y avait pas d'a priori, ni positif, ni négatif. Ils ont jugé que sur mon travail.
Parfait. Ouais, c'est même mieux que ceux qui arrivent avec des préjugés en disant je la connais, je sais ce qui va se passer, quoi. Ouais. On va en parler de ce film Holy Lands, mais d'abord des questions concernant sur la vie d'Amanda Sterz. Évidemment, vous ne dites, ça passe à l'antenne, c'est bizarre. J'ai plus l'impression que ça passe en studio et pas à l'antenne, mon petit. Voilà, que c'est loin, mon Dieu, que c'est loin. Bon, c'est pas grave, peu importe.
C'est la vie de Nagui, il se parle tout seul.
Non, je parle pas tout seul, je parle à la régie qui réalise cette émission.
Faut le dire, Nagui, faut le dire, faut partager tout ça.
Et on n'a pas trouvé la musique, mais c'est pas grave. Pourquoi pendant le tournage de Holy Lands, le dialogue n'a pas été toujours facile entre les équipes? Ne dites rien.
La langue hébreu.
L'emploi du temps par rapport à la religion au fait.
Il y avait des gens qui parlaient hébreu, des gens qui parlaient français, d'autres anglais.
On ne tournait pas le jour du Shabbat.
Bon, allez, on va dire que c'est ça l'idée. En fait, non, c'est plutôt les nationalités. Il y a combien de nationalités en tout?
Ouais, c'était un côté vraiment tour de Babel sur le tournage. Il y avait une partie de l'équipe qui était israélienne, une partie belge, française, des américains, des anglais et des façons très très différentes de travailler.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce qu'au-delà du passeport et de la langue, est-ce que l'esprit, la manière de travailler est vraiment radicalement différente, ou la grande famille du cinéma travaille de la même manière?
Non, disons qu'il y a quelque chose aux États-Unis de très respectueux du réalisateur. Il y a une vraie hiérarchie dans le travail. En Israël, le stagiaire donne son avis et pense qu'il a raison. Donc c'est en même temps assez rafraîchissant et ça peut être compliqué.
C'est une différence plus quoi, américaine et méridionale, c'est ça? Il y a un laisser-aller méridional qu'il n'y a pas aux États-Unis.
Disons que pour incarner l'autorité dans ce genre de région, il vaut mieux crier. Alors que
vous êtes comment alors vous?
Moi qui ai l'habitude de fédérer mes équipes dans la douceur, j'ai dû apprendre assez rapidement qu'il fallait hurler. Donc il y a une sorte de schizophrénie totale entre mon tournage en Belgique ou à New York et mon tournage en Israël, où d'un coup on dirait une furie sur le plateau.
Alors ce qui fait que vous hurliez en hébreu et vous étiez carrément en anglais.
Alors je ne sais pas parler hébreu, mais je hurlais en anglais et tout le monde me comprenait.
Que faisait le papa d'Amanda Sterz au petit déjeuner?
Des crêpes,
des œufs.
Non. Alors quand je dis que faisait, c'est pas au sens culinaire du terme.
Il lisait.
Pardon.
Du yoga.
Non.
Des prières.
Mais on n'est pas loin.
Gymnastique. Des assouplissements.
Non.
De la zumba.
Non. Vélo, non. Course,
grimaces,
aviron, aviron, rameur.
Non.
Il est psy.
Oui.
Il est psy.
Il posait des questions.
Exactement. Okay. Il faisait même carrément une analyse de vos rêves, en fait, c'est ça?
Ah, génial.
Ouais, tout petit, il nous aidait à analyser nos rêves. Il nous donnait des clés pour qu'on les analyse.
Mais qu'est-ce que ça doit être gênant, ça, au petit-déj? Non?
Vous mentiez, non?
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, quand on comprend comment on analyse les rêves, du coup, on les invente et on peut faire passer des messages. Donc, assez tôt, ça m'a appris à faire mon métier. J'ai inventé des rêves que j'avais pas du tout rêvé pour dire, cette petite fille pleurait.
Et il les prenait pour des vrais?
Et je pense qu'il a marché quelques fois, ouais.
C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que vous reproduisez ce schéma un tout petit peu avec vos enfants maintenant que vous connaissez la traduction des rêves?
Je trouve ça assez impudique quand on veut pas raconter ses rêves, mais quand on est tout petit, spontanément, on a envie de les raconter le matin ou quand on s'en souvient.
Les enfants, les enfants rêvent de la mort de leurs parents, rêvent de
les
choses
tiens,
qui
oui.
sont. Je te confirme. Ouais. Non, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Moi, je me souviens avoir rêvé aussi de celle de mes parents, donc c'est assez particulier.
Tu veux parler,
ouais. Il y a les rêves et les cauchemars qui sont parfois qui ont l'impression. Ont l'air destructeurs, plus destructeurs qu'un rêve.
Mais qui parfois sont positifs
et où on sent qu'ils passent des étapes, qu'ils avancent. Donc je ne vais pas leur interpréter leur rêve directement, mais je les aide. Voilà, je pense.
Est-ce que vous avez un rêve récurrent, un peu comme des actrices qui ont cette peur de se retrouver? Je te regarde, Agnès, parce que je me dis, est-ce que sur scène, est-ce que tu as déjà fait ce rêve de soit d'être sur scène et de plus savoir le texte, soit d'être sur scène et de se retrouver nue? Je sais qu'il y avait des actrices qui nous avaient dit ça aussi. Toi, tu rêves de vomir?
Je vomis sur scène.
Oui, mais ça, c'est parce que tu as des soirées assez particulières.
Non, moi, j'ai un rêve récurrent, mais qui n'a pas de rapport vraiment avec mon métier. Mais j'ai toujours l'impression que peu importe l'endroit où j'habite, il y a une pièce dans mon appartement que je ne connais pas. Et j'ouvre cette porte et je me retrouve toujours dans un autre endroit, un autre appartement et que je connais. Dans lequel j'ai été plusieurs fois dans mes rêves.
Ah oui, d'ailleurs, comme un autre endroit. Un autre monde.
Ouais,
un monde parallèle, la chambre verte dont on parlait avec
Albert. Et je me réveille et je me dis toujours, il n'y a pas de porte à cet endroit et pourtant je suis presque sûre qu'il y en avait
une. Que je peux y aller.
Ouais.
Et alors, vous l'avez analysé?
Voilà, j'essaye de ne pas l'analyser.
Faut appeler Plaza.
Quelle est la particularité des repas de famille dans l'appartement, justement, qu'Amanda louait avec sa sœur?
Personne ne venait.
Non.
On n'est pas obligé de s'asseoir à table.
Non.
Il y avait toujours du poisson.
C'était allongé, on mangeait allongé.
Non, je viens de me rappeler.
Non, ah, ça tient trop. Ouais.
Dans le noir.
Non,
filmé,
la drogue.
Filmé.
Non, ça a un rapport avec ce qu'elle a dit en début d'émission.
Bonjour.
Non, elle a pas.
Personne ne savait qui était qui.
Si, elle est avec sa sœur. Elle est avec sa sœur, mais pour pouvoir dîner.
Il faut hurler.
Exactement. Ah. Il faut hurler parce que le métro...
En fait, on avait loué un appart avec ma sœur, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était étudiante et on avait des petits jobs, on avait réussi à louer un appart, on était surprise que ce soit pas si cher. Mon père nous avait dit ça va être une arnaque et tout, on a dit mais non, laisse-nous faire, on était hyper contentes. On avait évidemment visité un jour de la grève de la RATP.
Comme dans un éléphant.
C'est un éléphant, c'est ça, exactement.
Et il y avait un bruit de métro de dingue. Et quand nos parents sont venus dîner la première fois, on avait mis tout le monde d'accord pour hurler toutes les 3 minutes passage du métro.
Donc, c'est dingue.
Tout le monde faisait une fausse blague.
Que 3 minutes, c'est 1 minute 30
ouais,
de métro.
On riait comme des dingues toutes les minutes 30 pour rien. Et il s'est pas trop rendu compte. En partant, il a dit, il va y avoir un petit bruit de métro quand même.
Que s'est acheté Amanda Sterst avec ses économies, celles faites pour ses boulots d'adolescente?
Des boules caisses?
Non.
Un flingue?
Non.
Des tenues, des talons, un appart.
Tu parles trop de ta vie, fais attention. Fais attention, Agnès.
Des bijoux.
Un objet d'art?
Non,
une peinture,
pas,
une photographie?
C'est pas un objet.
Non.
Elle gagne son propre argent de poche.
Ouais.
Un animal, ouais.
Exactement.
C'est
oui, mais il faut
gagner également.
Parce que c'est pas assez.
Quoi?
Un chien, il a dit.
Non, c'est pas un animal, on va dire, fréquent, quoi.
Un serpent.
Ah, un singe? Un
iguane?
Un cochon?
Un rat?
On revient en film.
Un singe.
Une migale.
Non. Un animal noble.
Un cheval.
Exactement.
D'appartement.
Un chat.
Alors, il faut préciser déjà quels étaient les jobs d'ado, parce que vous organisez des soirées.
C'était pas des jobs d'ado normaux.
Ouais.
J'organisais des soirées avec toute une bande de copains. Il y avait une bande de garçons. J'étais un peu dans un lycée de gosses de riches et moi j'avais pas tant d'argent que ça et donc on s'est dit comment on va nous aussi
leur piquer le pognon.
Ouais.
Oui.
Et donc ils ont commencé eux à organiser des soirées, cette bande de garçons, et un jour je suis venue les voir en leur disant écoutez, les soirées ça marche parce qu'il y a des jolies filles, toutes les jolies filles c'est mes copines, si vous êtes que des garçons vous les aurez jamais, faites-moi rentrer dans le deal et moi je me débrouille pour vous emmener les filles.
J'adore l'idée. Voilà. D'où ce surnom de Madame Claude qu'on vous a donné?
Entremetteuse.
Elle venait juste danser. Mais
c'est ce que dit Dodo la Saumure aussi. Elles viennent juste pour danser.
Non, mais c'est une formidable idée.
Et qui a
rapporté ses fruits, ouais. Puisque là vous avez
assez
pu vous acheter.
Assez pour que j'achète un cheval, pas assez pour me rendre compte que derrière, ça ne vivait pas dans un appartement et qu'il fallait entretenir ce cheval.
Avec le bruit du métro, aucun voisin ne se serait rendu compte qu'il y a un cheval chez vous. Incroyable. Si je vous dis picoutoir, à quoi cela vous fait-il penser? Picoutoir. Ce sera la dernière question.
Un picoutoir.
Ouais, picoutoir.
C'est un endroit où on pose un...
Pas du tout.
Non ?
Non. Ça rejoint aussi ce qu'on a dit en début d'émission, à part le bonjour.
Picoutoir. Quand, on se prend une engueulade ?
Non.
Non ?
Quand on hurle.
Ah, c'est quoi un contexte
pendant... Agnès, arrête avec ce regard vers Amanda du style aide-moi. Je t'ai vu.
Je peux pas lui donner d'infos là. Comme
je t'ai vu, c'est impossible. Elle peut pas mimer picoutoir. C'est pas possible. Picoutoir. Aucune idée ce que ça pourrait être ? Non, on laisse tomber.
Ouais.
C'est une langue ?
C'est une langue qu'on a inventée, mon frère, ma sœur et moi. Et mon cousin.
Le
on n'aurait jamais
alors.
Moi le picoutoir.
Ouais. C'est pas
et
un
alors
picoutoir,
c'est quoi le principe ?
Vous pouvez nous dire bonjour en picoutoir ?
Machloum. Mais
vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi.
Non, non. Mais normalement, j'ai pas le droit de parler picoutoir. Donc j'espère qu'ils m'excuseront cette exception. Il y a que nous.
Donc c'est un code entre vous pour ne pas être compris des autres.
Ouais. Mais la femme de mon père, ma belle-mère, au bout d'un moment, elle a craqué, elle hurlait. Arrêtez de parler picoutoir.
Et c'était fait pour ça, pour pas qu'elle comprenne.
Ouais, ouais. C'était fait pour ça.
Ça s'appelle la cryptophasie.
Mais il y a des règles qui président à cette loi.
Ah ouais, ouais.
Ou,
c'est des
très
règles, il y a des personnages. On est. C'était tout un monde, tout un univers.
C'est curieux parce que beaucoup de jumeaux développent la cryptophasie et c'est étudié par des généticiens, des savants. Donc c'est intéressant, vous n'avez pas de sœur jumelle.
Non, mais on est
non, mais vous êtes suffisamment proches.
3 ans et demi d'écart.
Ouais,
bah
voilà, dans les fratries très resserrées.
Très proches, oui. Ouais. Alors parlons justement de la famille, puisqu'elle est au cœur de Hollylands. C'est la traduction de Terre Sainte, ça peut être aussi sacré, mais dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire sacré famille, sacré rapport, des tensions. Ce sont des personnes qui, évidemment, s'aiment. Je dis évidemment parce qu'elles font partie d'une même famille, mais qui pourtant ont plus envie que les autres changent dans cet amour, de voir les autres se transformer que de se changer eux-mêmes. Il y a un père qui est parti élever des porcs en Terre Sainte, donc en Israël. Il y a une mère qui continue d'élever ses deux enfants pourtant grands, l'une qui continue d'être adolescente et l'autre qui est un dramaturge qui vit très bien son homosexualité au point de vouloir adopter en couple un enfant. Et tout le monde a sa vie un tout petit peu disloquée comme ça, déséquilibrée. Ils ne réussissent pas à se dire entre eux tout simplement qu'ils s'aiment. Il y a un problème de communication entre eux.
Oui, c'est une famille comme il y en a beaucoup, un peu puzzle, qui attend que l'autre fasse un pas vers lui. Et je pense que c'est un peu le symbole de la réconciliation. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réconcilier, il faut réussir à avoir le monde dans les yeux de l'autre et du coup avoir de l'empathie. Et c'est ce chemin d'empathie. Tout ce film, c'est comment on arrive à dépasser les limites de sa tolérance. On pense tous qu'on est ouvert d'esprit jusqu'à un certain point.
Alors justement, la réconciliation passe par quoi ? Accepter l'autre comme il est ou modifier un peu de soi, un peu de lui pour trouver un terrain d'entente ?
Je pense que c'est comprendre qu'il y a plusieurs points de vue plutôt qu'une vérité. Que la vérité, elle dépend de l'endroit dont on raconte l'histoire. Et c'est pareil, d'ailleurs, quand on réalise un film, selon la personne sur laquelle je vais mettre ma caméra, on ne raconte pas la même histoire, on ne raconte pas les mêmes émotions.
C'est pas le même point de vue, oui. C'est parti d'une information que vous avez lue dans Le Monde diplomatique, d'une anecdote qui pourrait... Enfin, à la base, ça vous a fait rire, d'ailleurs, cette information.
Sur comment on élevait des cochons en Israël en les mettant sur des planchers.
Des pilotis.
Sur des pilotis comme des Hawaïens. Donc on les met sur des planchers pour pas qu'ils frôlent la Terre Sainte. Et il y avait deux raisons d'élever des cochons en Israël, enfin même trois. Et la première, c'était parce que c'est à la mode dans les restos branchés de Tel Aviv de manger du porc, de montrer qu'on est en rupture avec la religion. La seconde, c'était parce qu'il a été question à un moment que les soldats de Tsahal aient des cochons au bout de l'Est pour pouvoir pourchasser les terroristes dans les territoires. Parce que d'abord, ils ont un flair hors du commun. Et si un musulman pratiquant touche un cochon, il sait qu'il ne va pas aller au paradis. Et la dernière raison, ça avait été qu'ils voulaient mettre des poches de sang de porc dans les bus, qui était un endroit où il y avait beaucoup d'attaques terroristes, parce que si un terroriste se faisait exploser et était touché, souillé de sang de porc, il ne montait pas au paradis. Et donc il y avait cette idée complètement absurde d'avoir des grosses poches de sang de porc au milieu des bus.
C'est arrivé ça ou c'était une
idée ? C'est pas arrivé, mais ça a été vraiment réfléchi, évoqué à la Knesset, etc.
D'accord, mais comme... Ah, carrément, à l'Assemblée
nationale israélienne. Ouais.
Parce que quand moi j'ai entendu dans le film, je me suis dit c'est une vanne.
Non, il n'y a que...
Tout est vrai.
C'est vrai. Ouais.
Et c'est de ce, à partir de là, vous
J'ai eu un fou rire en lisant ça et je me suis dit, bon, ce qui est super, c'est que pour une fois, les musulmans et les juifs sont d'accord contre quelque chose.
Contre les porcs.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cochons dans cet endroit. Et je trouvais ça mignon, cette espèce de symbole d'innocence, d'enfance, des trois petits cochons qui d'un coup devenaient des méchants loups pour eux, quoi.
Donc c'est toujours avec cette même idée du terrain d'entente et de dire on peut avoir le même ennemi, enfin on peut ne pas être d'accord, mais tant qu'on trouve une tierce personne ou un troisième point de vue différent, là on pourra se rapprocher.
Il y avait ça et aussi
il y a un petit cochon auquel il s'attache
ouais. Dedans James Caan va s'attacher à un petit cochon dont la maman ne peut pas s'occuper, donc il lui donne le biberon et il commence à le personnifier, il lui met un petit bandana autour du cou et le rabbin lui dit alors quand est-ce que tu vas le manger, il lui dit mais non, lui je le mangerai pas, et lui dit donc tu vas manger ses cousins. Et en fait c'était aussi une sorte d'allégorie pour dire quand on pense les gens dans leur ensemble, quand on pense les cochons dans leur ensemble, on n'est pas ému, mais quand on rencontre un petit cochon et qu'on s'attache à lui et qu'on connaît sa vie, alors il devient quelqu'un. Et c'est pareil quand on est raciste ou quand on n'aime pas un peuple dans son ensemble.
Quand on stigmatise un peuple, il suffit d'en connaître un bien pour
les juifs, les arabes, les palestiniens, et on a des grandes idées comme si tout le monde se valait, comme si tout le monde avait les mêmes opinions. Et c'était une sorte de symbole humoristique.
Oui. C'est l'un des mots du siècle, de faire des généralités, d'appeler les machins et de mettre derrière une catégorie, qu'elle soit ethnique, religieuse, professionnelle, corporatiste.
Vous croyez qu'en tant que blonde, j'en ai beaucoup souffert.
Bah oui, non, mais j'imagine. Non. J'imagine. Mais ça ne vous a pas enlevé votre sens de l'humour, tout ça. Parce que
comme
vous,
femme aussi.
Vous pourriez... Oui, c'est ça. Non, mais dès qu'on dit les femmes, c'est vrai que ça ne veut rien dire de faire des généralités. Comme ça. Ce que vous aviez envie de faire, c'était de raconter des histoires humaines et de faire une espèce de comédie à la Woody Allen, un peu, et de psychologie aussi, dans tous ces rapports humains.
Je pense que quand on écrit, on n'imagine pas le
rendu.
Spécialement ça. Moi, ce que je voulais, c'était faire rire les gens, les émouvoir. Et il y a cette chose dans le film, et je vois que c'est réussi aujourd'hui. Quand à la sortie des avant-premières, j'ai des gens en larmes qui me disent « je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère, je vais leur dire que je l'aime ». Et c'est vraiment un film qui met des mots sur les silences. C'est comment, dans ces générations que nous sommes, où les parents ont beaucoup de pudeur et n'ont pas pu dire « je t'aime », n'ont pas pu dire « je suis fière de toi » parce que c'était pas dans nos cultures, on nous a pas appris à dire ça aux enfants. Il y a des enfants qui cherchent ça toute leur vie. Et on peut être des enfants de 60 ans qui attendent nous encore ça.
Il y a des scènes, émouvantes, mais même fortes et violentes, quoi. Une mère qui se sait atteinte d'un cancer, qui est derrière la porte, qui tape à la porte de l'appartement de son fils en disant « ouvre-moi, il faut que je te parle », et le fils qui ne bouge pas le petit doigt, enfin, c'est d'une violence inouïe.
Ouais, c'est l'incapacité de voir ses parents mortels. Mais c'est l'incapacité de se dire que... Si on voit, enfin, en tout cas, si on voit pas quelque chose, ça peut ne pas exister. Mmh. Oui. Et il se dit qu'il se protège de ça, comme si ça allait épargner sa mère parce que ça rentrait pas dans sa réalité.
Et vous rajoutez votre humour en disant que le mari qui ne supporte plus sa femme se dit, elle m'a tellement cassé les pieds que je la pense immortelle, tellement elle me saoule.
Ouais. Ouais, les emmerdeuses, ça meurt pas.
Et le personnage du fils, lui, qui est dramaturge, comme l'a dit Nagui, il a aussi cette capacité à parler de sa famille à travers la scène. Il met finalement une sorte de distance pour mieux la regarder, et pourtant c'est pas plus simple pour lui de l'accepter.
C'est à la fois mieux la regarder et sûrement il y a, comme chez tous les artistes, une sorte de prémonition, puisque ce qui se passe sur scène, c'est ce qui va se passer dans la vie.
Ouais.
Est-ce que c'est lui qui fabrique la vie ou est-ce qu'il il en connaît déjà les aboutissements, et quand on est auteur, on se pose toujours ces questions-là parce que on a cette force un peu démiurge, quoi, de pouvoir réinventer la vie.
Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, entre celui qui quitte totalement sa famille pour aller élever des porcs en Terre Sainte, celle qui continue d'être une maman extrêmement possessive et qui limite continue de brancher son médecin, l'oncologue qui va s'occuper d'elle, joué par Patrick Bruel, d'avoir ces deux enfants qui sont censés être adultes et qui continuent de rester des enfants, de vouloir se faire prendre en main. Il n'y en a pas un qui dirige un peu la barque au milieu de tout ça. Il n'y a pas le taulier quoi, dans la famille.
Et je pense qu'il y a cette envie de me dire que mes personnages sont maladroits et pourraient être mal aimés. Et en même temps, je les pardonne. Et donc, je pense que je les aime et que les gens arrivent à les aimer. Et aucun d'entre nous n'est parfait. On avance tous avec nos boitements en essayant de faire semblant de marcher droit.
Mais... Ils ne sont pas mal aimés, ils ne savent pas aimer. Même la fille qui a une aventure, c'est l'aventure de quelques minutes.
Je pense que justement, ils ne savent pas aimer au début du film, et c'est un film sur l'apprentissage de l'amour et la capacité, en tout cas, à le prononcer.
Et qu'est-ce que ça dit de vous, finalement? Parce que c'est aussi une question qu'on se pose, nécessairement.
Ce que ça dit de moi... Je vais vous hier en sortant de la projection des Halles, j'ai eu un flash et je me suis dit mais mince, en fait je comprends mon père qui est juif. La première fois qu'il a rencontré ma mère qui était catholique, il l'a emmené dîner chez Cochonnec. Ça s'invente pas. En pensant là, c'est dur, il s'est dit une catholique, je vais emmener chez Cochonnec. Et d'un coup, je me suis dit ah ouais, donc j'ai écrit tout ça, c'est juste pour ça. Je viens de m'en rappeler, j'avais oublié. Je vois votre ami psy qui rit là derrière. Je vais m'allonger après.
Et je me suis dit Madame Charcutière, c'est
pas pensé.
C'est apparu hier. Alors
hier,
que
d'un coup, j'avais complètement oublié,
j'avais oublié
cette anecdote complètement. Ouais. Je sais pas d'où c'est sorti parce que je suis sortie du cinéma des Halles et il y avait le pied de cochon devant. Je me suis dit.
Oui. On va en parler avec Laura Gélin. Laura Gélin qui est en effet psychanalyste et nous allons parler de la famille et de l'impossibilité ou de la difficulté en tout cas de dire les choses et de communiquer, mais qui est vraiment le point central de ce film avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Alors c'est un humour, on marche sur les œufs quand on fait de l'humour autour de la religion et là il y a quand même beaucoup de vannes sur les cathos, les musulmans, les juifs, enfin ça y va, vous avez... De ce côté-là c'est très œcuménique. Hein,
c'est vrai que je pense que quand on est bien dans ses baskets et qu'on respecte les religions et qu'on voit à la fois leur absurdité et leur beauté, parce que je comprends très bien la nécessité des gens de se rapprocher de Dieu, d'avoir la foi. Tant qu'il y a du respect, je pense qu'on a le droit de s'amuser et que les gens le sentent. Et j'ai jamais eu d'ailleurs de réflexion sur ça.
Rosanna Arquette, James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers, Ephrat Dor, qui est une comédienne que je ne connaissais pas, qui joue extrêmement bien et qui au-delà d'être belle, je ne voudrais pas réduire simplement en disant il y a une jolie fille dans le film. Voilà, elle joue extrêmement bien. Elle a des scènes où elle passe par tous les états, des états de la vie. Comme des états d'émotion et en plus, ce qui ne gâte rien, elle est extrêmement belle. Film que vous écrivez, que vous réalisez, Amanda, et qui sortira demain, mercredi, sur tous les écrans. Père Albert.
Oui, je suis là.
J'ai dit une bêtise. Père Albert, ce film va être un succès d'avance.
Bien sûr, Nangui. Alors tout d'abord, vous avez eu raison de souligner les causes majeures de ce succès imparable. L'humour, vous venez de le dire, le casting, mais surtout la réalisation remarquable d'Amanda Sterz. Coucou Amanda. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Ce film va passionner un public d'autant plus vaste que par-delà la religion, il s'agit d'une réflexion sur la liberté de conscience, sur le droit de tout à chacun de pouvoir remettre complètement en cause ses convictions. Alors bien sûr, tout dépend du point de vue où chacun se place. Ainsi, un juif religieux non seulement aura du mal à accepter qu'un autre juif renonce à sa foi, mais il acceptera encore moins que ce juif devienne éleveur de porcs. Le scénario serait le même pour un bon musulman. Mais prenons un éleveur de porcs. S'il lui prend, après avoir lu le dernier livre d'Émeric Caron, vivant chez Flammarion, très intéressant, de ne plus vouloir emmener ses cochons se faire saigner salement à l'abattoir, ou s'il décide de ne plus jamais manger de jambon ou de se gaver de boudin, et s'il annonce du sucre qu'il est devenu vegan, il y a tout à parier que cette nouvelle orientation sera mal prise par ses anciens amis de la filière porcine. Donc ce film, Nangui, est une leçon de tolérance. Oui. Cette même tolérance qui parfois, hélas, vous fait tant défaut.
Allez.
Comme ce fut le cas tout à l'heure, juste avant l'émission, quand vous avez demandé à Jane B, notre rédac chef, c'est qui t'a invité ce matin? Amanda Sterz, oh mon bon maître. Mais bougre de bourrique, elle est déjà venue. Je me souviens, c'était pour un bouquin. Je l'avais pas lu, bien sûr, mais je me rappelle le titre. Les promesses. Justement, oh mon super patron, vous lui aviez promis qu'elle reviendrait. Bon, allez, fais-la entrer dans le studio et passe-moi la quatrième de couve de son nouveau bouquin, ça me suffira. Mais elle vient pour un film, Holy Lands. Alors fais-moi voir la bande-annonce. Voilà, cher Amanda Stairs, comment se prépare la bande originale dans l'apostasie, l'hypocrisie et la discourtoisie envers l'invité.
Que des monzies.
Avant de nous quitter, je peux me permettre une petite annonce?
Non.
Eh bien quand même, je la ferai. Alors comme je prône moi aussi la tolérance et la réconciliation, en ce début d'année, j'organise dans ma camionnette bâchée cuir clouté des rencontres-débats entre jeunes CRS et jeunes gilets jaunes, sans haine et sans violence, et je lance donc le mouvement Gilets jaunes en recherche. Venez nombreux. Merci.
Merci, Albert. La bande originale. J'ai beaucoup cité les comédiens américains. Oui, Agnès, quand les applaudissements s'arrêtent, c'est pas le moment de se réveiller en disant « Ah tiens, j'ai pas fait moi ». J'ai cité beaucoup les comédiens américains. J'ai cité Patrick Bruel. J'ai oublié de citer Raphaël Mesrahi qui joue un vétérinaire. Pardon.
Je lui confierai pas mon chien.
Et Sébastien Castro qui joue le curé justement dans
un collègue
dans le film et qui est.
Et Rime qui est ici aussi.
Formidable. Et Rime, ouais, qui a. Peu de scènes.
Ouais, elle est vraiment venue par amitié.
Voilà ce que j'allais dire. Ouais, c'est vraiment le
clin d'œil.
Le clin d'œil. Ouais. Nécessaire et suffisant. Holy Lands au cinéma demain. Tout de suite, voici Agnès Hurstel. Ah.
Bonjour, bonjour.
Ça va
et vous, oui. Je ne sais pas ce que mon big data essaye de me faire passer comme message, mais en ce moment sur Facebook, je ne reçois que deux genres d'articles à lire. Des articles sur le sexe ou sur les croisières touristiques. Alors moi-même, je ne comprends pas ce grand écart cérébral.
Ouais, la croisière, je comprends pas, mais le reste...
Non, je ne sais pas. Je me dis que seul mon inconscient comprend nos algorithmes. Bien sûr, peut-être que tout au fond de moi, mon fantasme secret, c'est simplement de faire l'amour en mer avec Philippe Laville, comme Shakira dans les pubs Costa Croisière, je ne sais pas.
Ah, oui.
Ce week-end, par exemple, en déroulant mon fil d'actualité ou en scrollant sur mon feed, comme disent les vieux maintenant, j'avais soit accident et fiasco, les malheurs du pénis en 2018, soit quand la gastro s'invite sur le bateau, la croisière tombe à l'eau. J'ai appris plein de choses. Déjà qu'il existe un homme qui cette année a eu l'idée incroyable de couper des petits piments d'Espelette et de se les poser sur le zizi pour aller aux toilettes. Là je dis zizi parce que j'ai mal pour lui. Je sais pas, c'est dans le palmarès de 2018. Donc un génie, surtout quand il s'est mis après de la javel pour ôter le piment. Voilà. Donc ensuite, je suis passée à l'article sur les croisières. Non, mais c'est génial.
C'est vrai.
Je pense que voilà.
Donc ça, ouais, j'étais sous.
Allez, ah, c'était toi. Et le deuxième article, j'ai appris sur les croisières qu'il y a plein de gens qui font leur lune de miel sur des paquebots énormes à 6000 personnes. Ah ouais. 6000 personnes sur le bateau, pas dans la lune de miel. Sinon, ça s'appelle un gangbang. Et il paraît qu'il n'y a pas besoin d'aller aux Caraïbes. Il y en a des formidables dans le Loir-et-Cher, à ce qui paraît. Bref. Sauf que là, dans l'article.
Ouais,
j'ai des adresses. Tout le monde a chopé la gastro. Donc, il y a 475 personnes qui ont dû rester en quarantaine dans leur cabine. Interdiction de quitter le navire, de débarquer en Jamaïque, vomi, diarrhée, lune de miel totalement ratée. William Gleed, qui était à bord avec sa jeune épouse, dit à la presse, c'était censé être notre lune de miel, ça a viré à l'enfer sur Terre. J'ai failli la jeter par-dessus bord, alors que moi, à la base, je ne voulais même pas me marier. Comme quoi, rester sur la terre ferme et ne surtout pas pimenter son couple, c'est beaucoup plus safe. Hier soir, par exemple, dans CNews, un article encore plus croustillant, ils organisent un voyage en bateau pour prouver que la terre est plate. Okay. Alors déjà, j'ai appris qu'un Français sur six était platiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, monsieur. J'en étais sûre. Ça fait 8 mardis que vous venez, j'en étais sûre. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire platiste? Moi, je pensais que c'était les gens comme moi qui n'avaient pas de poitrine. Ou bien les gens qui disaient des platitudes, comme Platon. Eh bien non. Les platistes, ce sont des gens qui affirment que la Terre est plate et non pas ronde, comme nous l'avons appris à l'école. Alors, à ne pas confondre avec les trapézistes, qui pensent que la Terre est un trapèze, ou avec les cubistes, qui font des peintures et qui sont tous morts. Donc, les platistes pensent surtout que la Terre est entourée de murs de glace. Voilà, ils pensent que c'est plat, qu'ils vont y aller en bateau et qu'ils vont, comme dans The Truman Show, arriver dans un mur de glace. Comme ils sont déjà dans Game of Thrones, en fait. Je sais pas si vous regardez. Voilà. Ils sont dans la prochaine saison. Moi, je pense d'ailleurs que Khaleesi, mère des dragons, était platiste. Ça se voit. Et ils ont des arguments imparables. Les platistes disent, par exemple, il suffit de regarder autour de soi à l'horizon pour juger par soi-même que c'est tout plat. Alors, c'est vrai. C'est vrai que si la Terre était ronde, les choses ne tiendraient pas debout. Les trottinettes électriques ne tiendraient pas debout devant chez moi, sur le trottoir, sur la chaussée, partout où elles sont. D'ailleurs, si la Terre était ronde, il n'y aurait pas de trottinette électrique. On roulerait au travail comme des petits pokéballs qui roulent comme des boules de flipper. Ils disent aussi, les platistes, il n'y a pas de photo de la Terre entière. Bah ouais, c'est vrai. Moi, j'ajouterais même, il n'y a pas de selfie de la Terre entière. Et ils disent aussi, on n'a pas la tête qui tourne, ni la nausée tout le temps. Ouais, ok les gars, c'est vrai que donc clairement ces gens-là n'étaient pas sur la lune de miel, sur le paquebot de la gastro. Bref, moi je souhaite aux platistes de très belles lunes de miel plates et sans piment. Moi je retourne sur ma première catégorie d'articles, le sexe c'est beaucoup plus drôle et beaucoup moins dangereux.
Merci Agnès Hurstel. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Justement, vous avez voulu donner, à propos de sexe, une sexualité à ces deux... à ces deux enfants que sont Annabelle et David, c'est ça, dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont une vie de couple pour le garçon qui vit en couple avec un monsieur extrêmement charmant.
Interprété par Thierry Harcourt, d'ailleurs.
Voilà, super classe, super chic. Ouais. Et la fille Annabelle a zéro. Elle va chez le psy. Elle a zéro histoire.
Ce couple homosexuel est établi. Lui, il est établie dans la vie, et Annabelle, c'est un peu l'éternelle adolescente qui n'arrive pas à se poser, à tomber amoureuse, et qui va tomber enceinte après une nuit d'amour, un soir en Israël.
Mais pas n'importe quelle nuit non plus, parce qu'elle est sur la plage, elle prend des photos.
D'ailleurs,
c'était
pas la nuit, d'ailleurs, c'était l'après-midi.
Ouais, enfin, le coucher de soleil.
Entre chien et loup.
Ouais. Et tout d'un coup, il y a l'alarme qui retentit, cette alarme qu'on peut entendre quand on va en Israël, indiquant qu'il faut se mettre à l'abri parce que potentiellement il y a une menace. Et donc, c'est quand même dans ce contexte de vie, de mort, de danger, en effet, qu'elle.
D'urgence à vivre.
Ouais.
D'urgence à vivre et d'urgence, comme on va le comprendre au fur et à mesure dans le film, à donner une sorte d'héritier à cette famille, puisque c'est tellement dur d'adopter pour ce couple homosexuel et que le nom ne va pas persister.
Alors, c'est l'une des phrases violentes dans le film. C'est lorsque le père finit par dire ce qu'il reproche à son fils, puisqu'il a arrêté de lui parler le jour où il a su qu'il était homosexuel. Ce jour-là correspond en plus au 11 septembre, donc un cataclysme et sur la planète et dans la vie de cette famille. Cataclysme pour cet homme qui refuse l'homosexualité de son fils, en lui reprochant de laisser mourir le nom de la famille, en disant il ne pourra plus donc y avoir d'héritier qui porte le nom du père, donc à cause de toi notre famille va mourir.
C'est
violent.
Il y a à la fois cette fin de nom et à la fois la mort de cet enfant futur et imaginaire qu'il avait toujours eu. Je pense qu'on a tous, malgré nous, des projections de nos enfants plus tard. On se dit tous, plus ou moins, on les imagine comme ci ou comme ça. Et d'un coup, qu'ils trahissent tous les rêves, toutes les images qu'il avait de lui, de ses petits-enfants. C'est trop violent pour lui de l'accepter. Ouais.
Holy Land, c'est demain au cinéma. Il y a des moments émouvants, il y a des moments drôles. On passe par tous les états dans ce film, dans cette histoire de famille, avec des comédiens extrêmement impressionnants de justesse, même s'ils n'ont pas, on en parlera tout à l'heure, la même manière de travailler les uns et les autres, manière à l'ancienne, manière acteur studio, manière plus instinctive ou plus dirigiste. Apparemment, Rosanna Arquette savait exactement ce qu'elle voulait et l'exprimait. Vous avez dit dans une interview d'ailleurs que honnêtement, elle avait souvent raison quand elle était têtue sur des points de vue.
En tout cas, elle a toujours des idées sur son personnage et elle n'arrive pas sur un plateau sans avoir travaillé. Donc elle a déjà raconté toute une histoire derrière.
C'est un peu ce que nous disait Juliette Binoche aussi sur sa manière de travailler, en construisant la vie, le passé et le comportement de son personnage, sa Bible. Quoi.
Quand on a la chance d'avoir une actrice de ce niveau, il faut prendre aussi des choses qui nous offrent.
Ça vous nourrit. Ouais. En musique, puisque la musique est également présente dans le film, notamment une scène dans la voiture. Entre James Caan et Tom Hollander, c'est-à-dire le rabbin qui, au début, reproche à ce père de famille de venir élever des porcs en Terre Sainte, et qui vont se révéler être plutôt des bons amis, on va dire.
C'est une vraie histoire d'amitié, je pense que c'est la naissance d'une amitié. Et dans la contradiction, il y a le respect de l'intelligence de l'autre et de son point de vue. Quand on accepte le dialogue, je pense que ça les élève tous les deux et qu'il y a une admiration qui se crée.
Mais le choix de cette chanson n'est pas naïf, parce que les paroles sont vraiment là pour expliquer justement la distance qu'il peut y avoir entre
Je voulais à la fois un standard, parce qu'il fallait qu'ils puissent la fredonner ensemble. Et cette scène, c'est ce moment où tous les deux dans la voiture, ils ont encore une certaine réserve. Et puis il y en a un qui se met à chanter et l'autre. Et le fait de chanter à l'unisson, ça veut vraiment dire ça, chanter en chœur, être ensemble, partager. C'était le lien qui se créait entre les deux, le symbole de leur amitié.
Et cette chanson qui parle de solitude.
Ces rivières à traverser pour
aller vers l'autre.
Et en 94.
Non, c'était pas ça. Ça, c'était la BO du film.
Ah
par contre,
non,
en 94, ce qu'elle écoutait, c'était plutôt Alphaville.
Bravo.
Alors là, on est en 94, avant Masters. Vous décrochez le bac, vous avez 16 ans.
Ouais. Carrément, le bac à 16 ans ?
Ouais.
Vous
ouais.
sortez tout de suite de ce sujet, vous n'avez rien à faire ici.
Je ne faisais pas que des soirées.
Ouais, c'est ça. On va revenir justement à cet épisode des soirées organisées. Votre père, il est encore question de lui, vous attrape après une soirée, vous avez fait le mur.
Ouais.
Ouais. Et la sanction tombe tout de suite.
Ouais, je faisais le mur, je faisais des soirées, mais j'avais pas le droit de sortir, donc c'est compliqué encore les choses.
Vous avez quoi, 15 ans?
Ouais, à 14 ans, 15 ans, c'est n'importe quoi, mais.
14
non,
ans?
Aujourd'hui, je me rends compte en voyant mes enfants.
Mais non, mais si vos enfants à 14 ans font le mur pour aller organiser des soirées.
Là, je suis ravie qu'ils écoutent pas l'émission.
Donc vous faisiez semblant d'aller vous coucher, il y avait vraiment une stratégie, on met des choses sous la couette.
Oui, je faisais semblant d'aller me coucher, etc. Sauf que, alors je sais pas, parce qu'il y a deux anecdotes, mais je sais pas, celle que vous avez.
Celle des baskets, moi.
Ouais, alors, en fait, je rentre, il y avait une autre sortie, on pouvait sortir par derrière, par le parking. Et là, il est 5h du mat, 6h du mat, je rentre par la porte principale, je me dis évidemment tout le monde dort, on est dimanche. Et là, mon père a eu la bonne idée de vouloir faire un jogging ce jour-là. Et donc je le croise en bas de la maison, en tenue de fille qui était en boîte, quoi. À 15 ans, avec aucun sens des perspectives, hein. C'est assez platiste dans ma tenue.
C'est-à-dire des talons plutôt, et pas tellement plat là, de ce côté-là.
Des talons et une mini-jupe, ouais. Quoi, enfin, un truc classe d'une fille de 14 ans, quoi. Voilà.
Ouais, le truc qui va bien calmer le papa à 5h du matin.
Et du coup, il m'a dit, tu montes dans ta chambre, tu mets un jogging et des baskets et tu descends.
Et tu cours avec moi.
Il m'a fait courir derrière lui sans un mot et c'était une bonne leçon.
Ouais. Et c'était quoi l'autre anecdote?
Oui, bonne idée.
L'autre sanction.
Ouais, non, l'autre anecdote, c'est que j'ai quand même réussi comme une débile mentale à organiser un truc la veille de mon bac philo. Une soirée la veille de mon bac philo. Et je suis quand même sortie et ma sœur, elle me dit, 23h, c'est bon, il va pas remonter, il doit penser que tu dors, c'est bon, tu peux y aller, on dormait dans la même chambre. Et quand mon père monte pour me dire, me donner des suggestions pour le bac, elle dit, elle est dans la salle de bain et il parle derrière la porte de la salle de bain pendant 10 bonnes minutes en disant, maintenant, les conneries, ça suffit, demain, tu veux. Et il est assez fier parce que pour une fois, je réponds pas parce que j'étais assez... une petite conne, quoi, et il y a un petit sourire, puis à un moment, il se dit, elle répond pas, et il dit, mais tu te fous de ma gueule, il y a personne dans cette salle de bain. Et quand je suis rentrée, ma sœur avait écrit un mot avec écrit en énorme grillé, j'ai gardé le mot. Et je l'ai pas vu en rentrant, donc je me suis couchée, et l'image d'après, c'est mon père au-dessus de ma tête, qui me hurle dessus, voilà, juste avant le bac.
Ça vous a pas empêché d'avoir le bac, de faire des études ensuite à la Sorbonne, de l'être moderne, et de commencer déjà finalement à faire un peu le métier que vous faites aujourd'hui, c'est raconter des histoires, ou en tout cas recueillir ces histoires. Vous animez une émission.
Ça, raconter des cracks,
qui s'appelle Histoire d'en parler, voilà, sur une télé TFJ, la télévision française juive.
À l'époque, c'était un petit job où je recueillais des témoignages de rescapés. Donc ça a été un petit job qui s'est avéré un gros coup de poing et une vraie émotion.
Ouais.
Et d'ailleurs, je pense que l'année d'après, c'est l'année où j'étais au plus d'enterrements de toute ma vie. Parce que je n'ai recueilli que des témoignages de gens de 95 ans, mais j'ai eu des liens avec des familles entières qui m'ont dit, ces gens n'avaient jamais parlé. Ces gens n'avaient jamais mis de mots sur leur histoire. Et souvent, à la fin de leur vie, quand ils sentaient que c'était le moment ou jamais, ils avaient cette envie de parler. Et donc, du haut de mes 20 ans, j'ai recueilli des témoignages de ces gens.
C'est une formidable idée.
Ouais. Et c'était très touchant. Ouais.
En 2001, vous écoutiez...
Et dans ces années-là, ouais, c'est Caméra Café. Vous écrivez, je crois, les 60 premiers épisodes.
Ouais, il y a eu beaucoup de choses dites sur Caméra Café. D'abord, c'est pas mon idée. C'est l'idée de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Mais j'ai fait partie de ce groupe d'auteurs qui a écrit effectivement tous ces épisodes de Caméra Café. Dans un moment où M6 avait c'est Jean Drucker qui était aux commandes et il y avait une sorte de sentiment de liberté génial qui a pu être Canal à un moment.
Ouais.
Et maintenant c'est devenu assez normé. On a l'impression que Caméra Café c'était très libre, c'était très neuf, c'était un ton différent. C'était avant un gars et une fille, c'était ce moment où on inventait ce programme court et c'était vraiment réjouissant et j'ai appris plein de choses à côté de Bruno et Yvan. Et
qu'est-ce qui a fait que Bruno Solo est un formidable comédien, il faut le dire aussi. C'est ouais. on retient ouais. celui qui fait des vannes, mais quand il fait des rôles dramatiques, il est impressionnant aussi
ouais,
de,
il est impressionnant.
De justesse.
Et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché votre intérêt pour cette écriture-là qui est particulière, le scénario?
Payer le loyer de l'appart du métro.
Okay. Et le cheval, et le foin. Hein,
non, mais au
foin.
Départ, franchement, j'étais un jeune auteur, j'aurais fait n'importe quoi. Et je pense qu'eux, ils étaient en train de ils cherchaient une équipe de jeunes auteurs. Ils m'ont fait faire un test et ça les a fait rire. Et de quelque chose qui était anecdotique, au départ, pour moi, ouais. j'ai appris beaucoup de choses.
Vous avez découvert votre capacité à faire rire de quelle façon? En faisant justement... à l'école, des vannes qui faisaient rire la classe, qui faisaient glousser les copines, ou le sens de l'humour, ça vient de vos parents.
La personne qui glisse à l'oreille du voisin la vanne que lui va dire à haute voix et qui va faire rire. Et du coup, je suis plus vraiment un auteur. J'ai pas de vrai sens du timing de la comédie. J'ai peur.
Vous avez le sens dans la vie. Vous avez le sens de la répartie. Vous avez le sens de.
Ça dépend des moments.
L'angle et le regard.
Ça dépend des moments, mais
et beaucoup d'autodérision aussi.
Ouais. Mais je pense que c'est une défense, l'humour. C'est la pudeur des gens sensibles.
En 2003, vous écoutiez.
C'était un peu en retard.
Ouais, ce que j'allais dire, ouais. C'est passé, vous avez un problème de pile dans votre radio, c'est quoi?
Ma cassette stéréo cassette.
Vous entendez toute première fois, ça vous fait penser à quelle image? Pourquoi vous avez choisi cette chanson pour 2003?
Je sais pas, on me demandait des chansons que j'aimais et toute première fois, non. Ça doit être lié à quelque chose.
Qui correspondait à 2003.
C'est la naissance de mon premier enfant aussi.
Ah. Qui est dans le film?
Qui est dans le film, je dis pas trop. Mais
ah, il fallait pas le dire,
film.
Pardon.
Non, c'est pas grave, il est dans le film, il est dans le film. Je dirais pas où, mais il est dans le film et il est assez doué. Même s'il veut pas du tout faire ça dans la vie.
D'accord, ok, ouais. D'accord.
Donc 2003, premier enfant, et aussi premier roman publié, parce que vous aviez déjà écrit auparavant, mais ça n'avait pas trouvé, ça n'avait pas donné concrètement lieu à l'objet livre. Et c'est Ma place sur la photo, ce premier roman, et vous êtes finalement déçu à la sortie de ce... Vous racontez dans les interviews que ça a été un moment difficile.
Ça a été un moment difficile parce que première publication avec des compromis, avec je me rappelle qu'on m'avait
des coupes, même carrément, c'est plus que des compromis.
On m'avait enlevé certains mots qui étaient ma marque de fabrique entre guillemets, c'est-à-dire que quand je m'étais chialée, on me demandait de m'être pleurée.
Ouais.
Et quand voilà, je reconnais pas tout dans ce livre, c'est moi, mais en partie.
Ça, c'est le travail avec l'éditeur maintenant qui fait qu'on choisit pas n'importe quelle maison pour se garantir cette liberté, ou c'est
non,
parce que
je pense
c'est
un problème de temps, de début, et même au cinéma, je pense que c'est la première fois que j'ai un film sans compromis. Holly Lund, c'est mon premier film, c'est mon film, je suis fière du film. Et du coup, c'est une sensation très différente pour la sortie, par exemple. Je serais extrêmement touchée que ça marche, j'en ai envie, mais si ça marche pas, ça marche déjà pour moi. On n'a pas cette peur-là parce qu'on sait qu'on livre ce qu'on a fait de ce que j'ai fait de mon mieux, quoi, ce que je pouvais faire.
À quel moment dans la vie on fait des compromis, on accepte des coupes, justement, des changements, et il y a d'autres moments où on devient patron, patronne, et on a des. Et on reste sur ses idées sans accepter la moindre remarque. Ce qui peut être pris d'ailleurs comme étant un entêtement ou
c'est délicat parce que
il
y a aussi j'ai aussi eu des grands éditeurs là pour mon prochain
avec
film
des bons conseils,
j'ai un immense producteur qui travaille avec moi et évidemment je l'écoute et il faut cet exercice d'humilité et le compromis c'est pas se sentir trahi, il faut juste prendre les bonnes idées, les bonnes remarques et savoir se dire ça me ressemble pas quand c'est pas le cas.
Donc accepter les réflexions tout en restant droit.
Oui, il n'y a pas de carrière où c'est tout de suite, enfin c'est rare où on est tout de suite complètement accepté. Et après, moi j'ai toujours été saluée pour mon étrangeté, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait des choses sans compromis, comme le vieux juif blonde, qui était une pièce un peu ovni, avec un titre dont personne ne voulait, et même avec une comédienne à l'époque dont personne ne voulait, j'ai été saluée pour ça. Donc je me suis toujours dit, il vaut mieux que je me fasse confiance, quitte à me tromper, et que j'essaye de... Ouais.
D'ailleurs, il y a eu plusieurs comédiennes pour le vieux juif blonde. Demain, on reçoit Aurore Auteuil.
Aurore, ouais. Et Aurore Auteuil, qui était exceptionnelle. Il y a Fanny Valette et Camille Raza, qui est merveilleuse qui vient de finir là, qui vient de la jouer pendant 6 mois.
Et Mélanie.
Et Mélanie Thierry qui a commencé.
Qui avait été la première à le
ouais,
jouer
pour laquelle j'ai écrit
au Mathurin, si j'ai bonne mémoire.
Ouais.
Au petit Mathurin d'ailleurs.
Au petit Mathurin d'abord et ensuite la grande salle. Ouais.
Nous avons donc Laura Gélin, nous avons la chance d'avoir Laura Gélin avec nous, psychanalyste. On parle de la famille et de l'impossibilité ou de la difficulté de se dire les choses. D'ailleurs, pourquoi c'est si difficile de se parler entre membres de la famille ?
Dans le film, il s'agit surtout de la relation parent-enfant, qui est quand même un lien particulier parce qu'il est vraiment fondateur.
Pardon, on peut pas dire que dans les rapports entre les deux parents soient top non plus dans cette famille, ni entre les deux enfants. Hein, c'est pas...
Non, mais c'est vrai que les liens sont d'autant plus... l'enjeu est énorme. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, on n'ose pas exprimer nos émotions ou notre ressenti par peur de décevoir et de perdre le lien. Qui est un lien qui met en place tout le reste de nos relations amoureuses ou amicales plus tard. Donc l'enjeu est immense. Et puis, on a effectivement le roman familial que chacun a en soi, qui n'est pas forcément le même. Je le vois souvent dans des personnes d'une même famille qui viennent en thérapie, à quel point leurs points de vue sont très différents. Mmh. Leurs vécus sont très différents et que c'est compliqué de se confronter au point de vue de l'autre et d'accepter surtout l'autre tel qu'il est et non pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit, que ce soit son parent idéal ou son enfant idéal. Voilà.
Le fait est que dans une famille, les liens sont dans nos veines. On ne choisit pas sa famille selon la formule consacrée, contrairement à un partenaire dans la vie où si on n'est pas d'accord, bah, il suffit de se séparer, de se quitter et de casser entre guillemets un lien ou un couple. Alors que dans une famille, on se retrouve soit dans des moments clés, soit dans des situations heureuses ou dramatiques, des mariages, des décès. Il y a des rendez-vous presque imposés par la famille, il y a des codes.
C'est d'autant plus difficile d'accepter les gens tels qu'ils sont quand on ne les a pas choisis. Mmh. Et quand on est même un peu, au départ, un peu obligé de les aimer et de les accepter.
Et cette notion d'avoir le même sang dans les veines ne suffit pas à dire « donc on s'aime » ?
Pas toujours. Parfois, on s'y sent un petit peu obligé par loyauté. Mais il y a aussi ce qu'on partage, ce qu'on a vécu réellement. Et parfois, il y a des parents qui n'ont pas forcément pu donner la possibilité à l'enfant d'exprimer, même très jeune, ses émotions, sa colère, sa tristesse. Et l'enfant, du coup, s'est un petit peu suradapté, attend cet amour inconditionnel et du coup, n'a pas l'autorisation d'exprimer plus tard même... la colère, le désaccord, les rancœurs.
Alors tout est là, tout est dans l'expression, dans la communication.
Dans la possibilité de dire. Oui.
Voilà, le film le montre bien. Ils ne savent pas se parler.
Ils ne savent
que ce soit au téléphone, par écrit, par FaceTime, par n'importe quoi, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux.
Ils n'arrivent pas à communiquer en direct, mais c'est vrai que dans le film, ils arrivent quand même finalement grâce à l'écriture. Et c'est un moyen très efficace.
Ouais, enfin, ils arrivent à la fin du film, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit le moyen de communication.
Communique mal, quoi.
C'est ça. C'est le vécu et les épreuves par lesquelles ils passent.
Il faut qu'il y ait des grosses explosions, des drames familiaux pour qu'ils arrivent enfin à dire les choses. Ouais.
Et c'est le message aussi de ce film. N'attendons pas que les gens ne soient plus là pour se dire qu'on les aime.
Oui, prenez votre téléphone, dites-le, même si ça a l'air compliqué. Personne ne vous en voudra de dire. Je t'aime.
D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe pas forcément dans toutes les familles. Tous les parents ne disent pas je t'aime à leur enfant et inversement.
Non, d'autant plus dans les générations de nos parents où c'était cette pudeur qui empêche effectivement, même si l'amour est là, de pouvoir dire très tôt à un enfant, de l'encourager, de lui dire je suis fière de toi, je t'aime, de manière naturelle et spontanée. Et d'ailleurs, il y a plein d'adultes qui, en fait, continuent encore adultes à attendre ce mot, cette preuve qui n'est pas forcément.
C'est indispensable, vous pensez ? Vous venez de le dire, est-ce que tous les témoignages d'amour, finalement, passent nécessairement par le dire ? Est-ce qu'on a besoin de dire « je t'aime » moi, je comprends la pudeur et la gêne, c'est pas facile à dire.
Oui, mais pas facile à l'exprimer d'une manière ou d'une autre.
Oui, voilà, c'est ça. En faisant à manger, en prenant soin de toi, en te...
Oui, par des actes, par une présence à un moment donné important de la vie, dans une activité de l'enfant, d'être dans cette présence-là à des moments importants. Parce que sinon, une fois qu'il va être adulte, il va finir par encore avoir l'enfant intérieur qui va toujours revenir et demander ce qu'il n'a pas eu.
Mais la pudeur de ne pas dire justement tous les jours et chaque minute « je t'aime » pour ne pas brader, pour donner une valeur à ce « je t'aime » versus de le dire si peu que ça manque aussi à ceux qui ne l'entendent pas. Il y a peut-être un juste milieu.
Au-delà du « je t'aime », pour moi, c'est dire « je suis fière de toi, de la personne que tu es devenue. Je respecte la personne que tu choisis d'être et que tu deviens. » Je pense que c'est ça qu'on attend de nos parents. Parce que l'amour, il a quelque chose d'un peu acquis, mais on ne veut pas qu'on nous aime avec dépit. On voudrait qu'on nous aime en nous admirant, je pense.
Mais alors, c'est la famille dans votre film, comme certaines familles, ne sont pas à une engueulade près. Et donc, il y a des clashs. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une preuve d'amour que de se dire les choses, que de clasher, mais au moins ça a été dit, c'est sorti et c'est une forme de respect quelque part de se dire.
Je pense que c'est très très sain d'être capable de s'engueuler quand c'est nécessaire.
Plutôt que d'entasser et de cacher des.
Parce que si on est capable de s'engueuler et de se dire les choses, c'est qu'on sait que le lien est fort, est inconditionnel et que cet amour inconditionnel permet de finalement pouvoir dire les choses sans prendre le risque de perdre le lien. Donc c'est cette sécurité-là qui
contrairement à un partenaire où là on peut le perdre parce
avec
que...
Avec un partenaire, l'amour n'est pas inconditionnel.
Mais il ne faut pas que ça vire à l'humiliation aussi, parce qu'il y a des engueulades qui peuvent être atroces et rabaissantes.
C'est pas le cas.
C'est difficile.
Oui, mais je parlais par rapport au film. Non,
c'est pas le cas du tout dans le film, oui, bien sûr.
Non, on n'est pas dans l'humiliation, mais il y a le fait... Il y a souvent aussi, on parlait des secrets de famille, de se dire il y a des sujets qui sont tabous, il y a des choses que l'on ne dit pas, chacun doit garder ou pas son jardin secret. Tout ça, ce sont des
En tout cas, les secrets de famille, en général, ce qui n'est pas dit a beaucoup plus d'effets négatifs que ce qui est dit.
Il y a des sortes d'héritage dans l'ADN du silence, quoi. Et je pense qu'on ne naît pas libre, on se construit pour ou contre sa famille, même si on n'a pas de neutralité. On veut faire ce que papa et maman nous a demandé de faire ou on veut ne pas le faire. Mais il n'y a pas de naissance dans un monde de liberté absolue. Ouais.
Et parfois, on a besoin de parler à quelqu'un d'autre qu'à un membre de sa famille.
Bah c'est le cas dans le film où si finalement, entre guillemets, son pire ennemi ou son meilleur ennemi, je ne sais pas comment on peut le situer, mais enfin, il aura plus de facilité en tout cas à parler avec quelqu'un avec qui il est en conflit qu'avec sa propre famille.
Voilà, mais c'est aussi à ça que servent les hommes de foi, souvent. C'était le psy ancestral, c'était le psy avant l'heure, aller voir...
Le confesseur.
Le confesseur.
Et est-ce que les moyens de communication aujourd'hui, que sont justement les mails, les tweets, les SMS et autres, aident ou moins c'est peut-être plus facile d'envoyer un bisou ou un cœur par SMS que de dire « je t'aime »
Oui, ça permet de... Et puis l'écriture permet de poser les choses, de construire un peu
un cœur,
sa pensée.
Un cœur avec les doigts, tant qu'il m'envoie un cœur avec les doigts. Donc c'est plus facile.
Effectivement, ça permet la pudeur et puis que l'émotion soit... Quand l'émotion est trop chargée, c'est compliqué de dire les choses en direct.
Si vous aviez, c'est pas une psychanalyse en direct que je vous demande, mais un conseil comme ça à donner, c'est justement de ne pas rompre la communication, c'est le... Ça fait partie des fondamentaux ou il y a autre chose qui vous vient à l'esprit?
Parfois, on n'a pas trop le choix, mais ce qui est important, c'est d'être capable d'abord de parler de soi et de son propre vécu, parce que forcément, c'est très subjectif, hein, les rapports dans une famille, de ne pas être dans le reproche et dans le ton vindicatif, mais de parler de son point de vue, de son vécu. C'est important de parler, mais aussi...
C'est Boris Cyrulnik un jour qui disait il faut éviter le discours klaxon. Oui. Je lui ai demandé c'est quoi le discours klaxon. C'est les phrases qui commencent par tu,
non,
tu m'as dit ça,
tu, de soi.
Ouais, le tu. Et commencer par je ressens.
Toujours parler de soi pour ne pas être justement dans le reproche et après laisser la possibilité à l'autre d'écouter. Voilà.
Oui, c'est-à-dire s'exprimer. C'est vrai que la communication, ça marche dans les deux sens. À la fois l'expression, mais l'écoute et que les autres acceptent.
Et accepter aussi que l'autre a son propre vécu, son propre point de vue, qui n'est pas le même.
Sans qu'on cherche à
le
transformer.
Et l'acceptation...
C'est là que ça devient dur.
Merci.
Accepter l'autre. Anagui.
Merci, je ne sais pas qui tu es. Merci voilà. Laurent Gélin, merci mille fois d'avoir apporté votre éclairage. Tanguy Pastureau, à part me faire des cœurs avec vos mains, on n'a plus de nouvelles de Carlos Ghosn.
Non, il est toujours en prison au Japon où ses codétenus le regardent en se léchant les lèvres et en tripotant des savons à la graisse de baleine. Sa femme, Carole, alerte la presse, elle dit qu'il a déjà perdu 7 kilos. Or, autant ça aurait été top mi-juin, juste avant l'été, autant là, ça ne sert à rien.
On en parle, c'est moche. On en parle après les infos de midi. La bande originale avec Lila Kadobudendi, Agnès Surstel, Tanguy Pastureau, Albert Algou, Daniel Morin.
Bonjour Tanguy.
Et notre invité Amanda Sterz.
Bravo.
Je profite juste avant de redémarrer cette deuxième partie pour vous remercier
pour
votre fidélité. Fidélité qui nous permet, vous savez que les vagues de sondages radio se passent plusieurs fois dans l'année. Alors il y a des comparaisons qui se font par rapport à la vague précédente ou par rapport à la même période l'année dernière. Mais dans les deux cas, vous êtes plus nombreux qu'avant et ça nous encourage malheureusement à continuer. Je suis désolé, mais c'est pas le meilleur signe pour qu'on s'arrête. Donc merci mille fois, ça nous touche sincèrement.
On a augmenté ou pas ?
Et on a augmenté, oui, en nombre d'auditeurs.
Voilà.
Il faut voir le plaisir là où il est,
c'est vrai.
S'il te plaît. Holy Lands, le nouveau film d'Amanda Sterz. On évoquait hors antenne, Amanda, le titre qui est resté anglais et qui peut-être est le plus simple par rapport d'abord, un, à la réalité. C'est un film tourné essentiellement avec une production américaine, mais tournée un peu partout dans le monde et pas un film franco-français. C'est également avec un casting essentiellement américain. Je pense que si on doit compter en nombre, en tout cas de participants, les Américains sont très nombreux. Mais vous aviez ou quelqu'un avait évoqué la possibilité de redonner le titre de Terre Sainte, qui était le roman initial.
Oui, à un moment, et puis on trouvait ça un peu excluant parce que c'est pas un film que sur la religion, et je pense qu'en anglais il y a un truc un peu plus fun, alors que les Terres Saintes on avait peut-être un sentiment de gravité, alors que le film est drôle, le film parle plus d'une famille dysfonctionnelle que de religion en soi.
Plus terrain d'entente faire un jeu de mots.
On aurait dû vous appeler pour avoir un titre français qu'on avait du mal à trouver.
Vous avez, fort, vous avez bien fait de m'éviter, je suis pas sûr que terrain d'entente soit un bon titre.
On a cherché un titre sur la famille, mais finalement on s'est dit gardons le titre dans le monde entier.
C'est sexy.
Il y a Jean-Claude Carrière qui voulait faire la voix off aussi.
Allez, déchiquetez-moi, allez, tambourinez-moi.
Oui.
Amanda. Non mais Amanda, cette idée de terrain d'entente, parce que le fait de retourner en Terre Sainte justement, là où il y a aussi une scène assez forte entre une militaire, une douanière et Efrat Dor qui joue le rôle d'Annabelle et qui veut aller voir en Palestine ou de l'autre côté du mur ce qui s'y passe. Là aussi, vous tenez un discours politique avec une position assez violente, quoi. Vous reprochez la création de ce mur.
Oui, il y a une sorte d'allégorie de toute façon dans cette famille dysfonctionnelle qui représente un peu ces familles, ces cousins fâchés que sont les Israéliens et les Palestiniens. Cette espèce de question éternelle de qui a commencé le premier, qui a tort,
et je pense qu'il
faudrait arrêter de regarder le passé, mais se dire, évidemment, des deux points de vue, du point de vue israélien, ce mur a été construit après un nombre immense d'attentats, et c'est un mur de protection pour eux, et de l'autre côté, c'est un mur de ségrégation, c'est des gens qui ont du mal à pouvoir venir travailler dans ce pays, qui font parfois des heures de file d'attente pour pouvoir entrer en Israël, donc, des deux côtés, c'est un drame. Pour quelqu'un qui a vu ce pays naître, alors que voilà, il est né à l'issue de la Shoah dans des circonstances dramatiques, le symbole du mur est évidemment terrible. C'est le dernier endroit où il faudrait qu'il y ait un mur.
Et même ce discours-là, vous allez avoir évidemment des pour et des contre, ce genre de discours, j'imagine. Vous préparez à
essayer je pense que je ne sais pas s'il y a des pour et des contre parce que je donne les deux points de vue. Et s'il y a des pour et des contre, c'est que c'est des gens qui n'ont encore rien compris. L'idée, ce n'est pas d'être pour et contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que c'est là et qu'il faut avancer ? Et c'est pareil, dans une famille, continuer à reprocher des choses qui sont passées ne sert à rien. Comment on fait aujourd'hui pour que la situation s'améliore ? Et je pense que montrer un Israël où on entend aussi le muezzin qui appelle à la prière, où on comprend que vivent les trois religions monothéistes, tant bien que mal, mais quand même dans une forme d'harmonie puisqu'ils y arrivent, c'est un exemple plus joli à donner que les déchirements à la frontière.
Joli discours signé Amanda Sterz, comme le film Holy Lands qui sortira demain mercredi. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, je ne suis pas le seul, tout le monde se pose la question, que devient Carlos Ghosn ?
Eh bien Nagui, c'est terrible, il croupit dans les geôles japonaises où il subit les pires sévices, on lui passe le sexe au wasabi, on lui fait son lit en futon. Hier, son épouse a créé une ONG pour dénoncer ses conditions de détention. Selon elle, il n'a pas le droit de prendre ses médicaments. Vous imaginez si ça arrivait à Ariel Dombal, on la retrouverait dans le même état que celui dans lequel elle est là. Hein, on l'a mis dans une cellule éclairée 24 heures sur 24. Il a la vie de Jean-Pierre Foucault quand il va au point soleil. Carole Ghosn, l'épouse, ajoute qu'il a perdu 7 kilos et ne mange que du riz et de l'orge. On leur a envoyé Carlos Ghosn, on va récupérer Aymeric Caron. Quand il reviendra en France, il va brûler des magasins bio, c'est bon, en hurlant ras-le-bol des graines, je ne suis pas une putain de poule. Il n'en peut plus. Il est dans une cellule de 6 mètres carrés, vous imaginez ? À Paris, c'est un bel appart, mais Carlos Ghosn, c'était le king. Ribéry et son steak en or, à côté, c'est un zadiste en train de s'épouiller le pubis pour y trouver à grailler. Le journal Le Monde raconte qu'en 2016, Carlos et Carole se sont quand même mariés au château de Versailles parce qu'ils étaient fans du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola avec acteurs en costume d'époque. C'est-à-dire que s'ils avaient adoré De Funès, ils partaient sur un truc à Saint-Tropez avec 40 bonnes sœurs, 120 nudistes et Didier Gustin derrière le buffet en train de dire « Champagne, mais biche !» Seul souci, selon la presse japonaise... Seul souci, selon la presse japonaise, le mariage aurait été payé par Nissan, dont Carlos Ghosn était le boss. Comme abus de bien social, c'est énorme. C'est comme si en réalité que Drucker avait fait passer les croquettes des 40 clébards qu'il a déjà usées sur sa boîte de prod. Pire, la semaine dernière, on apprenait que Ghosn était résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012. C'est le seul mec qui, quand il a vu arriver Hollande, a cru qu'il était de gauche et allait tout lui prendre. Et selon l'Express, en 2005, il a acheté via Nissan un 489 mètres carrés dans le 16e à Paris pour lui. 489 mètres carrés, c'est le seul appartement où on doit utiliser Google Maps pour trouver les WC. Une fois, Carlos Ghosn s'est perdu dans l'appart. Il a fallu faire renifler un de ses vieux slips à Stéphane Plaza pour que l'autre arrive à le retrouver. Et d'après les échos, il avait même créé une filiale bidon qui servait juste à le rémunérer. 7 millions en plus. Ce type a le même rapport à l'argent que Kim Kardashian à la graisse de castor joufflu qu'elle s'injecte dans la lune. C'était une vraie addiction. Et dans sa tête, il se vivait comme un mélange de Batman et de Benjamin Griveaux. Il était persuadé d'être tellement haut que rien pouvait le faire tomber. Mais le mec était ignoble. Vous mettiez 20 000 euros dans une Renault, il se déplaçait même pas pour vous faire un bisou. Mes parents dans leur vie ont dû acheter successivement 14 Renault. Ils n'ont même pas eu un SMS avec un pouce levé pour dire merci. À Noël, c'est moi qui leur ai offert une boîte de Mon Chéri en leur disant que c'était de la part de Carlos Ghosn. Mais comme les Mon Chéri c'est dégueu, ils m'ont répondu que les voitures françaises c'était terminé.
Bon alors le problème des puissants, c'est qu'ils ont souvent un sentiment d'impunité.
Mais bien sûr, ils sont adulés, sont entourés de lécheurs de mocassins à glands qui H24 leur disent qu'ils sont top, ils deviennent fous. Moi, la fois où une dame du public est venue me dire que j'étais génial, j'ai eu une confiance en moi d'un coup. Puis elle m'a dit, n'empêche-vous Vincent Perrault, j'aurais jamais pensé que vous passeriez d'RTL à France Inter, et j'ai longtemps pleuré. Mais Carlos Ghosn se croyait au-dessus de tout, il aurait pu bosser Air France parce qu'il était tout là-haut près du soleil, cet astre inférieur à lui selon lui-même. Faire son mariage au château de Versailles, c'est un signe de démence, ça signifie qu'on n'a plus les pieds sur terre, parce que sinon on fait comme tout le monde, on invite sa famille qu'on n'aime pas à bouffer une pièce montée dégueulasse, avant que le DJ de la société Fiesta 2000 diffuse les sardines, et à minuit 16 on se suicide en s'étranglant avec la jarretière de sa femme, après avoir vu son papy défoncé, faire la sardine. C'est la toute-puissance que la société donne à ces gens-là qui leur confère un super-pouvoir. Harvey Weinstein tripotait tout le monde, il a tellement sorti son oiseau que les chasseurs français étaient à deux doigts d'essayer de le piéger à la glu. DSK dans les hôtels était presque déguisé en traversin juste pour que les femmes de chambre le tapotent. Mais dans leur tête, ils se disaient « je peux tout faire, je suis aussi haut qu'un acarien sur le crâne d'Edouard Philippe ». Même les politiques, je suis désolé, mais Macron, il lui aura fallu 5 semaines de manif pour réagir. Les boutiques étaient défoncées. Les vidéos de Jacqueline Moureau regardées par 6 millions de gens. Elle a fait plus de vues que YouPorn. À tel point que les gens confondaient, certains ont joui en la regardant dire « il y en a marre des taxes ». Depuis, à chaque fois que quelqu'un râle, ils sont excités. Ça, en France, ça veut dire être en plein orgasme jour et nuit. Ben non, il est tellement perché avec Castaner qui lui dit qu'il est réincarnation de Jéhovah qu'il a mis un temps infini pour redescendre. Ils ne comprennent même pas qu'on leur demande des comptes. Agnès Salle qui avait claqué 16 000 SMIC dans des frais de taxi, si elle s'était arrêtée 2 minutes pour réfléchir, quitte à se mettre
sur un arrêt de bus en warning. Ben, serait dit, non, mais là, je fais n'importe quoi. Il faudrait que chaque puissant ait avec lui quelqu'un de normal qui lui dise, stop, vous êtes perché. Hein, parce que quand on est tout là-haut et qu'on fait n'importe quoi, la chute est brutale. Regardez Carlos Ghosn, il a perdu 7 kilos. En août, il sera à moins 16 kilos. Et il pourra même pas faire fantasmer les gens sur la plage cet été, alors qu'il aura le corps de Pierre Ninet, parce qu'il sera toujours en tôle. Mais quel gâchis.
Merci Tanguy Pastereau.
La bande originale, la vie sur France Inter.
Tanguy qu'on retrouve le 8 février à Plougastel, c'est dans le Finistère.
Nous parlons de Hollylands, le film sortira demain avec James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyer, Efrat Dor, Rosanna Arquette et Patrick Bruel. Patrick Bruel, on vous le présentez en disant quoi? C'est mon ex-mari, c'est le papa de mes enfants, c'est quelqu'un que je connais bien.
C'est le père de mes enfants, mais en l'occurrence là c'est un acteur que j'admire et avec lequel je suis fière d'avoir tourné.
Oui, mais vous l'avez choisi.
D'abord c'était le livre que j'ai écrit qu'il aimait le plus. Il a toujours été très touché par ce livre. Et quand le film devait être en français et réalisé par quelqu'un d'autre que moi, Patrick devait jouer le rôle du rabbin à l'époque.
Ah, c'est vrai.
Et quand j'ai repris le film en anglais et que c'est moi qui l'ai réalisé, je voulais qu'il continue à faire partie de cette aventure. Il s'est beaucoup battu pour ce film. Et donc, naturellement, je lui ai trouvé un rôle que je trouve très joli.
Et le rôle du médecin qui annonce une bien triste nouvelle à Rosanna Arquette, c'était l'un de ses rêves aussi, de partager une scène avec Rosanna Arquette, sublime comédienne dans Recherche Suzanne désespérément, Pulp Fiction, enfin elle a fait des films de dingue.
Ouais, c'était pour moi la femme idéale, donc forcément la maman idéale dans cette famille. Je pense que il a dit j'ai pu entre le grand bleu le parrain quoi. Et oui, il y avait l'idée de côtoyer James Caan comme tous les mecs, je pense, rencontrer Sonny Corleone, c'est toujours une émotion, plus pour un acteur de jouer avec ces deux légendes. Ouais. Je pense qu'on était tous impressionnés sur le plateau d'avoir ces deux êtres qui sont devenus qui sont parce que ce sont des gens à part.
Alors justement, qu'est-ce qui fait que James Caan est quelqu'un d'à part? Vous dites c'est un immense comédien et en plus il est impressionnant dans sa manière de jouer. Qu'est-ce qui vous a impressionné?
D'abord, c'est justement le mot jouer lui va bien. C'est-à-dire qu'il a toujours l'œil qui pétille. C'est un grand enfant et il est là pour s'amuser, pour proposer des choses. Donc, il n'y a pas deux scènes qui se ressemblent. Il a cette façon de travailler très acteur studio. Donc, il apprend son texte vraiment au dernier moment parce qu'il veut pas fixer les choses. Il veut réinventer tout le temps. Il fait des propositions très différentes.
Garder une fraîcheur.
Quand on regarde, quand on est réalisatrice, normalement, on pense à plein d'autres choses, mais au moment où il y a l'action qui commence et que James Caan joue, on est déjà en train de regarder un film, on est déjà spectatrice, on n'est plus, on est emballé, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment le problème, c'est qu'il faut faire attention de pas se laisser emporter parce que les propositions sont tellement fortes, c'est tellement.
Comment diriger justement quelqu'un qui arrive avec une telle carrure et une telle, peut-être, assurance dans sa manière de proposer les choses?
Sans le frustrer, parce que s'il veut proposer beaucoup, il faut lui dire.
Il m'a donné cette possibilité de le diriger justement. Il m'a donné cette chance. Moi, je fais pas répéter les acteurs, donc quels qu'ils soient, je leur donne toujours une chance de me proposer leur vision du personnage d'abord, et ensuite j'aiguille vers ce que je veux. Mais ça peut que venir d'eux, de vous donner l'autorisation de le faire et d'avoir envie d'être à votre service.
On va continuer de parler de votre travail de réalisatrice sur Hollylands. Ce film sort demain, vous l'avez compris, un film intelligent, sensible, rempli d'autodérision, avec une véritable leçon de la vie. Ce que vous n'aurez pas maintenant avec Daniel Morin.
Vas-y avec ça.
Et le sport, les amis, il n'y a que ça de vrai. Preuve, tout le monde s'y intéresse. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et quand on dit sport, quoi de plus parlant que les Jeux Olympiques? Mais oui, les JO, symbole de la prouesse sportive, les JO, graal ultime de l'effort au service de la beauté du geste. Tous les pays veulent y participer, les grands comme les petits, et même les tout petits, petits, petits. Dernier en date chez les tout petits, 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 à vouloir avoir sa place dans la grande famille olympique, le Vatican. Non. Oui, c'est officiel, le Vatican a fait sa demande pour devenir membre à part entière et défendre ses chances à l'occasion des Olympiades. Alors, bien sûr, on se dit, mais enfin, le Vatican, c'est des vieux qui portent des robes longues et qui marchent déjà péniblement. Comment former une équipe de sportifs digne des JO? Eh bien, sachez que le Vatican, c'est une délégation de 60 athlètes vigoureux, composés de prêtres et de bonnes sœurs, mais également de gardes suisses. Ah, le garde suisse, ce grand gaillard blond armé de hallebardes et de casques, bâti comme un percheron qui le jour veille sur le pape et la nuit partage la couche des cardinaux amateurs de virile camaraderie. Alors, pour l'instant, le comité olympique italien a donné son accord. Reste à convaincre le CIO. N'empêche, ça aurait de la gueule une délégation du Vatican. Des athlètes en blanc et jaune qui porteraient un drapeau au bout d'une croix. Bon, ça fait un peu templier, mais ça aurait de la gueule. Alors bien sûr, on se dit, ouais, mais qui va aller soutenir pendant les épreuves la population du Vatican? Ça fait un peu de jazz quand même. Et puis, le profil fan du Vatican, ça fait pas trop fan de sport. Eh bien, je suis sûr du contraire. Je suis persuadé que pendant les épreuves, la foule des vaticanistes saurait donner de la voix à sa manière et saurait le faire si elle est clairement encouragée à le faire. Mes frères, mes sœurs, demain, c'est le début des JO. Je compte sur vous pour soutenir, pour encourager nos athlètes qui se battent pour la beauté du sport, certes, mais aussi et surtout pour la gloire de Dieu. Le baron Pierre de Coubertin disait « L'important, c'est de participer, pas de gagner. » Mon cul. Seule la victoire est belle. Allez dans la paix du Christ. Avec un message comme ça, dans le stade, ça ne peut que transcender les foules. Bonjour, bienvenue pour la finale du 100 mètres hommes. Une finale pour laquelle sont qualifiés tous les cadors du sprint mondial. Les États-Unis, la Jamaïque, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Afrique du Sud. Mais aussi, et là c'est une surprise, le Vatican. Ça y est, les athlètes font leur entrée dans le stade. La foule est impatiente. Je vois les supporters du Vatican se lever. On dirait qu'ils vont chanter pour encourager leur équipe. Qui ne saute pas n'est pas curé. Ouais. Qui ne saute pas n'est pas curé. Ouais. Ouais. Une bien belle leçon d'encouragement, c'est très Vatican, mais c'est dans l'esprit. Bonjour et bienvenue pour la finale du relais mixte, dernière épreuve de ces Jeux. On retiendra de cette édition la merveilleuse ambiance créée par les supporters du Vatican. Attention, les athlètes sont arrivés et voilà les fans du Vatican qui se lèvent pour les encourager. Allez, 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 allez les bonnes et les curés, allez, 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 la médaille, on va la gagner. Merci Sainte-Léla. Là où on les attend, le Vatican, c'est en natation. Si ça se trouve, en plus de marcher, ils savent courir sur l'eau. Ah oui, comme disait Gérard Rolls, vive le sport sur Antenne 2, à demain.
Merci. La bande originale.
Retournons en Terre Sainte, donc, après ouais. Le Vatican. Holy Lands. Ce film sortira demain. James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers, Ephrat Dor, Rosanna Arquette, Patrick Bruel, Raphaël Mizrahi, Sébastien Castro, j'en oublie, et beaucoup, parce que c'est un casting. Et évidemment, c'est un casting important, mais vous avez constitué une famille. On parle beaucoup de famille dans dans votre film, c'est le sujet, mais je pense que l'équipe autour, d'abord, sonne juste, et vous saviez exactement qui vous vouliez, dans quel rôle. Vous aviez ce film en tête même à l'écriture du roman?
Pas du tout. Et d'ailleurs, je voyais pas du tout de film quand j'ai écrit le roman. Je pensais que c'était impossible à adapter. C'était un roman épistolaire.
Donc... dites la vérité.
Non, vraiment, je voyais. C'était un roman épistolaire. Donc
dites la vérité. Vous avez refusé des adaptations.
J'ai refusé des adaptations.
Pour garder les droits pour le faire.
Non, parce que je pensais pas qu'il y avait de film. Alors, je pense que peut-être inconsciemment, ça va faire revenir notre ami psy. Mais en tout cas, non, sur le coup, je voyais pas de film. Et ensuite, je l'ai donné à une réalisatrice que j'aimais beaucoup. Que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, qui devait le faire en français, puis on n'a pas réussi à monter le film, et puis voilà, cette opportunité est arrivée de le faire en anglais. Mais vraiment, je pensais que c'était très compliqué, comme c'est un livre qui parle de silence et du manque de communication, je me demandais comment faire interagir les gens. Et il a fallu un petit moment pour que le déclic se fasse et que je vois comment l'écrire.
Et la réalisation, alors c'est votre troisième film, vous avez le sentiment d'avoir... trouver quelque chose de plus fort dans la manière de réaliser. J'ai lu que vous aviez tenu à ce que le ressenti, la lumière ne soit pas la même en fonction des scènes tournées à Bruxelles, à New York ou en Israël, plus chaude en Israël, plus blanche et noire à Bruxelles et plus
métallique,
bleu froid. Ouais, c'est ça. Un bleu métallique et froid à New York. Ça, c'est quelque chose que vous n'auriez pas imaginé dans les premières réalisations.
C'est dommage. madame, je fais très attention aussi à la réalisation. Il y a toujours une réalité.
Non, mais
réalité.
Vous faites attention, c'est une chose.
Oui, oui, enfin, je pense, je répète, imaginez, mais je pense qu'évidemment, on progresse. On progresse aussi avec ses équipes, et c'est pareil que dans une famille, avec la communication, parce qu'un film, c'est l'addition de talents. On est juste un chef d'orchestre, mais savoir comment diriger les gens, leur faire, les faire se surpasser, donner le meilleur, quand on a des liens d'amitié, c'est encore plus fort. Moi, j'ai le même chef opérateur depuis mon premier film. On apprend à se connaître, à travailler ensemble.
Des rapports de confiance et chacun peut se permettre de dire à l'autre quelque chose.
Ouais, bien sûr, c'est important. Et d'ailleurs, ça se passe toujours de façon hyper harmonieuse. Et bien sûr, on progresse, on apprend plein de choses. J'apprends et j'ai pas fini d'apprendre.
Ouais. Lors des différentes émissions, vous nous parlez toujours de vos projets. Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes déjà dans un roman, dans un prochain film
Oui, j'écris un autre roman. Je suis un peu en retard.
Pourquoi il y a des délais à respecter?
J'ai mon éditeur qui attend un livre depuis un an.
Vous avez déjà été payé, c'est ça? La valoir était conséquente.
J'ai une petite avance, ouais, mais non, pas assez conséquent pour ça.
Il aurait dû payer plus.
Non, c'est juste que j'ai envie, puis envie de retrouver mes lecteurs. Mais voilà, ça a pris beaucoup de place, tous ces films successifs.
Et de la même manière que l'on progresse à chaque film, est-ce qu'on a aussi le sentiment de progresser à chaque roman?
On l'a, mais je pense que j'ai atteint plus vite un niveau plus élevé parce que je pouvais travailler plus, parce que un film, il y a la réalité financière, la réalité économique où il nous faut de l'argent pour faire un film, donc le temps d'aller le chercher, et on ne peut pas, c'est dur de s'entraîner avec son iPhone, même si on apprend, etc. Je veux dire, on apprend en faisant, alors qu'on peut écrire et jeter 100 fois.
Vous êtes du type à écrire toute la journée, c'est ça?
Non, pas vraiment. J'écris par fulgurance. J'écris peut-être 20 minutes, mais ce sera souvent 20 minutes, entre guillemets, utiles, de choses que je vais garder. Mais j'y pense toute la journée.
Alors, sans nous dire le titre, ni raconter l'histoire, au moins l'esprit, c'est sur c'est une saga familiale.
Non, c'est la première fois que j'en parle. Non, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour.
Ouais. Mais il y a plein de premières fois que vous nous offrez chaque fois que vous venez dans la bande originale.
Oui, évidemment.
Donc, une histoire d'amour, qu'a-t-elle de particulier?
C'est l'histoire d'une femme qui a une cinquantaine d'années, qui a un peu mis sa vie de côté et qui va un jour, parce qu'il pleut, rentrer dans un salon de thé japonais. Et en fait, on la prend pour quelqu'un d'autre et elle se retrouve dans une salle de massage de shiatsu alors qu'elle ne devait pas du tout être là. Et l'homme qui va la masser...
C'est Yann Moix.
ça aurait pu... Ouais. Ça aurait été un autre genre de roman. Va d'un coup réveiller en elle un sentiment de volupté et d'amour qu'elle va mettre un long temps à exprimer. Mais c'est cette espèce d'histoire silencieuse entre deux êtres et de retrouvailles avec les émotions à travers le corps.
Voilà. Ça va faire un super film.
Le mec, il peut même le produire.
Ça fait un super film. Super film. Des excuses à présenter?
Oui, bien
Daniel
sûr.
Moore.
Alors, désolé pour la famille de Nagui, qui on l'a découvert, ou plutôt redécouvert ce matin, n'a pas le droit de boiter, de chanceler, d'avoir des failles, d'être fragile, d'être dans l'émotion.
Ah bon?
D'être humain, quoi. Il l'a dit, il veut du dur, du tatoué, sous peine de se faire tambouriner. Allez, courage les filles, courage les gars. Désolé pour les stagiaires exploités, sadisés, élevés, enfermés, tambourinés, qui ont découvert qu'ils auraient pu connaître une expérience gratifiante, qui aurait pu donner leur avis s'ils avaient été stagiaires en Israël. C'est vrai, c'est loin, mais ça vaut le coup. Et désolé pour Amanda Sterz, la morale m'a poussé à insister quant à vos activités d'organisatrice de soirée. Alors sachez, Amanda, la brigade de répression du proxénétisme vous attend à la sortie du studio. Tiens, je crois que je les entends d'ici tambouriner à la porte du studio.
Demain, c'est votre amie donc Aurore Auteuil avec son papa Daniel Auteuil qui viendront nous parler du malade imaginaire. Merci beaucoup, Amanda.
Merci.
Et merde, comme l'on dit pour la sortie de votre film, c'est demain au cinéma. Ça s'appelle Holy Lands avec James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys Meyer, Rosanna Arquette et Ephrat Dor, qui est une révélation et pas uniquement pour sa plastique, mais également pour son jeu dans ce film que vous réalisez et que vous avez écrit. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Et encore tous nos vœux. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis. J'ai une question très courte. Est-ce qu'Amanda a un lien de famille avec Freda?
Fred Astaire.
Oh là pas mal.
Allez, tu sors tout de suite.
Ouais, bah, je m'en vais.
Bonne émission.
Salut les amis.